Bonjour à tous. Merci d'être là pour un beau sujet ce matin que Dieu veut vous parler à notre cœur. Apprendre à contrôler ses réactions. Pensez-vous que notre façon de changer? Pensez-vous que ce monsieur-là a besoin d'apprendre à contrôler ses réactions? Pensez-vous que aussi. Que sa réaction, que ça va l'aider dans son problème?
Non.
Si vous rencontrez un problème sur le chemin, serez-vous enthousiaste d'arrêter d'aider?
Oh, oui, le prix est beau.
Je ne veux pas de prière, c'est sûr. Les réactions même, elles sont toujours. Ah, oui, il faut des moments en colère un peu face à un problème de vous mourir.
Moi, je suis content d'avoir rapidement posé une question des
réactions qu'on a.
OK. Moi,
j'aurais
tout le temps
les mettre avec garde. On a différentes réactions. Hein. Il faut apprendre. On a beaucoup à apprendre. Je pense que le Seigneur va nous apprendre. Vous avez des conseils à ce moment-là, quand ça arrive, on se tourne vers Dieu. On va prier. Merci Seigneur, encore tes beaux gens que nous avons eu. Tout ça, Seigneur, maintenant tu nous parles encore dans notre cœur pour nous aider à avoir des réactions dans nos vies qui gardent tout ton nom, Seigneur. Des réactions comme cet homme, c'est loin de glorifier ton nom, Seigneur, comme enfant de Dieu. Je te demande de m'aider à porter cette parole, Seigneur, que tu m'as mis à cœur. Que mon cœur soit disposé à la laisser entrer. Et agir, Seigneur, comme tu veux qu'on agisse, qu'on incante tes hommes. Je t'en remercie. Amen. Proverbe 25, 28, dans la sommaire. Il est écrit : celui qui ne sait pas se dominer contre les réactions est comme. Si tu ne sais pas te dominer, Seigneur, dit t'es comme ça. Une ville démantelée. Autrement dit, une ville qui est mise en pièces et qui n'a pas de rempart. Si tu ne sais pas terminer, tu es comme une ville qui n'a pas de rempart. Autrefois, une ville sans murailles était vraiment vulnérable aux attaques. Les gens qui restaient dans une ville n'avaient pas de murailles et c'était dangereux pour les autres de rester là. On parle surtout avant l'époque de Jésus. C'est Dieu qui a pris les murailles de même, mais c'est pas pour Dieu que les canons ont sorti, puis aussi qu'on tourne. À l'époque, il n'y avait pas ça. Les fortifications constituaient une défense indispensable. C'était indispensable pour une ville. Sans rempart, une ville était exposée aux invasions ennemies. Ces gens-là, ces ennemis-là, ils savaient qu'ils allaient attaquer des villes qui n'avaient pas de rempart. C'était beaucoup plus facile pour les hommes. S'ils voulaient piller une ville, ils n'allaient pas vers une ville qui avait des remparts. Ils allaient attaquer des villes qui n'étaient pas protégées. Donc, la muraille constituait une sécurité. Et c'est un fait. Les villes qui n'avaient pas de remparts dans l'histoire, on a vu beaucoup de choses, même dans la parole de Dieu et dans toute l'histoire, Québec, même la ville de Québec a un rempart. Ces villes-là, ils ont été attaquées, et après le rempart, ils ont été détruits. Il y a beaucoup de gens, j'aurais pu vous amener des photos, je ne l'ai pas fait, il y avait beaucoup de gens qui ont été massacrés. C'était dur, vous savez. À l'époque, c'était dur, terrible. Il y avait des recherches là-dessus. Les gens rentraient, puis c'était barbare. Tuer le monde à coups d'épée, puis c'était vraiment barbare. Il fallait qu'il y ait un rempart dans la ville, parce que les gens portaient tout ce qu'il y avait de précieux. Ils perdaient la vie aussi, bien souvent. Les gens qui n'avaient pas ces remparts, ils sauvaient ce qu'ils pouvaient dans des villes refuges. La Bible nous parle de plusieurs villes qui avaient des remparts. On se souvient entre autres probablement de une qui avait un gros rempart. On a une chanson.
Jéricho.
C'était une ville qui avait un gros, gros rempart. C'est une des plus anciennes villes, ils disent, qu'ils ont mentionné dans l'histoire, qui avait un rempart, un tel rempart. C'est une des plus anciennes villes. Un autre qui est bien connu, c'est les remparts de Jérusalem. Jérusalem avait vraiment des gros remparts, des grosses murailles à cette époque. Et puis j'ai sorti une photo pour ça. Des fidèles, toujours vos poisses. Et c'est ça que ça donnait à l'époque, selon les fouilles archéologiques et tous ces choses-là. Son rempart à Jérusalem était de 4018 mètres de long. Dans toutes ces données-là. Donc, c'était 2 000 et demi. On voit qu'il y avait un rempart, deux remparts, trois remparts. La hauteur, vous voyez les gens comme ils paraissent pas gros, la hauteur était de 12 mètres. L'épaisseur, 2,5 mètres. Pas facile à défoncer, ça. L'importance, on va le voir avec le côté spirituel, ça me vient. L'importance d'avoir un bon rempart. Les murs avaient 34 tours de guet. Pas vu sur un rempart, les gens surveillaient si l'ennemi s'en met 34 tours en tout. Vous avez pu être compté, ça. Il y avait 34 tours de personnes qui étaient là, les gardes, qui surveillaient tout le temps si l'ennemi ne s'en venait pas. Une telle ville n'était pas facile à prendre. Avant de s'appeler Jérusalem, avant ce monde, cette ville-là, elle était infranchissable. Et c'est qui l'a franchi? Ça n'a pas toujours appartenu à Jérusalem. Une ville infranchissable, pratiquement. Spirituellement, c'est comme ça aussi. Quand notre cœur n'est pas soumis au Seigneur, on n'a pas de foi. Si on n'est pas soumis au Seigneur, on ne peut connaître la parole de Dieu. Mais si on n'est pas soumis à Dieu, c'est comme si on n'avait pas de rempart. Les tentations, les découragements, la colère, puis le péché trouvent facilement des portes d'entrée dans notre cœur. Proverbe 4:23 nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient les sources de la vie. Si on n'est pas soumis, on devient incapable de prendre des décisions rationnelles. Le résultat, c'est ça que ça donne. Donc, on est envahi par la colère, ces choses-là. On a de la misère à prendre des décisions saines. On cède à l'emportement. Comme notre monsieur tantôt qui changeait son tailleur, pour pas dire ça. Pas dire tailleur. On cède facilement à l'emportement. L'on s'expose à des choix regrettables qui vont nuire à notre vie spirituelle et qui vont nuire dans nos relations avec les autres. Mais en nous soumettant à Jésus, c'est comme si on est avec une muraille qui vient nous protéger. C'est Jésus qui vient contrôler maintenant nos pensées et nos décisions. On laisse. Le Saint-Esprit produit en nous ce qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. Je vais vous le mentionner. La maîtrise de ça. Galates 5, 22 et 23. Ça, c'est un fruit de l'Esprit. Mais il faut être soumis à Dieu. On a beau connaître le verset. Si on n'est pas soumis à Dieu, on n'a pas de maîtrise de ça. La maîtrise de soi agit comme un rempart pour résister et garder notre cœur pur. Plus que Jésus a régné en nous, hein, plus notre muraille spirituelle va être solide. Les choses que vous ai mentionnées tantôt, le découragement, la colère, ils vont avoir de la misère à entrer dans notre cœur. Ils vont nous grossir. Proverbe 13:3. Il est écrit, celui qui veille sur sa bouche, on veut des choses à faire, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grande les lèvres ouvre à sa perte. Donc la maîtrise de nos pensées et de nos paroles est une condition essentielle pour présenter notre religion. Imiter Dieu dans les armées. Qui d'entre nous aime ça avoir des armées? On peut l'imiter beaucoup. On fait attention à ce qu'on pense, à ce que c'est qu'on dit. Donc, on doit apprendre à écouter, selon le verset, et aussi à nous taire. Vous remarquez que Dieu nous a fait deux oreilles. Une bouche. On ne dit pas ça. On devrait écouter.
Deux oreilles.
C'est tout un coup. On parle deux fois plus. Donc, là, c'est l'inverse. C'est pas ça. C'est un conseil que Dieu vous donne. Hein? C'est un conseil que Dieu vous donne. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Celui qui vit sans se contrôler, et l'autre qui vit, il laisse l'esprit contrôler. Celui qui vit sans se contrôler, si quelque chose l'énerve, qu'est-ce qui va se produire? Celui qui vit sans se contrôler, il n'y a pas de miroir. Il y a quelque chose qui vient l'énerver. À ce moment-là, la pression a monté. Tu veux calmer. Tout de suite. Il va agir sans réfléchir. Il va couper la parole de l'autre qui veut lui parler avec sagesse. Il va élever la voix, il va crier. Se défendre ou attaquer en retour. Il va chercher à gagner son point de vue. C'est moins que ça. Puis, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se plaindre à quelqu'un. Pour quelqu'un de son bord, pour l'appuyer. T'es correct, mon gros voisin. Ça, c'est lui qui sait pas ce qu'on veut. C'est une bonne façon d'arriver. Ça, on n'a pas besoin de ça. Celui qui laisse l'esprit le contrôler intérieurement, quand il arrive quelque chose qui m'énerve, il remet la situation à Dieu. Il va écouter avant de répondre. Et quand il répond, il répond comme Jésus. Il est écrit. Parfois, il dira, je préfère en reparler calmement plus tard. Si ça existe, si ça me range ou un peu, il va en parler plus tard. En parler plus tard, plus calmement. Donc, il choisit le bon moment de parler avec un ton respectueux. Il ne cherche pas à gagner le débat. Il évite les paroles agressives. Fais attention à ça. Celui qui est contrôlé par l'esprit. Vous voyez dans ma ligne, c'est affiché. La photo du contrôle. Mieux vaut se contrôler que de jeter de l'huile sur le feu. Pensez-vous que tous les deux ne se contrôlent pas. C'est pareil, dans ce temps-là, là. Comme jeter de l'huile sur un feu. C'est quoi qui va arriver? Ça va faire bon. Tantôt, ça va se couper. Les deux ne se contrôlent pas. C'est pas une série de gouttes d'huile ou carbone qui coule sur le feu. Ça va faire bon. C'est sûr. Il faut apprendre à se contrôler. Hein? Sinon, ça va briser une relation dans un instant. Quand ça fait bon, c'est fini. Tout est sauvé. Et combien de relations ont été brisées parce que les deux ne se contrôlaient. Mais ça ne fait pas. Il se passe plus, il y a des années qu'il se passe plus. Vous en connaissez, vous en connaissez. Même les meurt, je n'irai même pas le voir. Même voir son fils. Et c'est comme ça. Ça fait boum et c'est fini. Voir comme ça. Et c'est dur pour ces gens-là. C'est Dieu ou c'est Jean. On ne touche pas quelqu'un. C'est bien possible. Proverbe 15, 1. C'est bon, c'est qu'on avait tantôt au début, quand on est arrivé, c'est ce verset-là. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure, ça fait quoi? Excite la colère. Voici trois questions simples, mais puissantes, qu'un chrétien peut se poser avant de réagir trop vite, soit en parole ou soit en action. Quand tu sens la pression monter, Il y a trois questions aussi qu'on devrait se poser. Tu vois qu'on est venu en montée, t'arrives dans une situation que t'aimes pas. Ça vient te chauffer en dedans. Trois questions qu'on devrait se poser. Avant de fuir. Est-ce que ma réaction va m'apporter la paix ou des regrets? En ce sens-là. La question monte, t'as envie de réagir? Est-ce que ma réaction va m'apporter la paix ou des regrets? Cette question nous pousse à regarder un peu plus loin que l'émotion du moment. Faites attention aux émotions. Dieu ne nous demande pas de marcher selon nos émotions, mais nous demande de marcher par la foi. Quand les émotions sont là, il faut revenir sur vos questions. Souvent, la colère, la vengeance, offre un soulèvement immédiat, mais nous laisse un goût amer pendant des jours, des semaines et parfois pendant des années. L'arrêt de réfléchir. Deuxième question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Cela reconcentre le cœur. On passe de comment je me sens, les émotions, à comment je veux marcher. On veut marcher par la porte. Cela ouvre la porte de mon cœur à la douceur, à la maîtrise de soi, à la sagesse que Dieu m'a enseigné. On a pleine connaissance de la parole de Dieu, mais des fois, on se laisse aller dans les émotions. Dernière question. Prenons plus. C'est suffisant. Troisième question. Si d'autres me regardaient agir, seraient-ils fiers de mon attitude? Les gens qui me regardent agir, si mes autres me voyaient agir, ma femme me verrait agir, est-ce qu'elle serait fière de mon attitude? Si les gens d'église me verraient faire, à ce moment-là, ils me demandaient qu'ils changent son surplus. Est-ce que les gens d'église disent, ouais, j'en marque un beau comportement, hein, tu fais encore tout à l'heure? Est-ce que les gens seraient fiers de me voir? Dieu nous voit tout le temps,
hein? Ouais.
Dieu nous voit tout le temps. Cette question fait appel à la conscience et à ma dignité d'enfant de Dieu. On oublie qu'on est des princes et des princesses. On devrait se conduire en tout temps comme des princes et des princesses. Notre roi, c'est le roi céleste, bien plus qu'un roi terrestre. On est des enfants de Dieu. Aide le chrétien à choisir une réaction qui honore son Seigneur et son Dieu, au lieu de chercher à s'élever. Souvent, c'est l'orgueil, c'est des affaires de même qui nous fait avoir des mauvaises. Donc, nous allons regarder deux personnages bibliques. Le premier, David. Il a su se contrôler devant Saül, le roi Saül qui voulait le tuer. Comment on se comporterait devant un homme, un gouvernement? Qui veut nous tuer à tous les jours, il frappe à nous prendre au piège pour nous tuer. Comment on se comporte? Après ça, on voit Abigail. Ça vous dit quelque chose, ça, cette femme, Abigail?
Oui.
On voit cette femme-là qui a su apaiser une situation explosive. On a vu les deux femmes, qui se querellent. Mais s'il y en a les deux qui sait comment apaiser la situation, ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Lisons 1 Samuel 24, 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Donc, il n'y a pas tout lire les versets, mais pour vous mettre dans le contexte, le roi Saül voulait tuer David. Tous les endroits que David a sauvés, quand que Saül a tendance à dire, il cachait notre ancien russe. Ben, Saül s'appelait avec son armée, puis il allait là pour le tuer. C'était tout. Alors David a dû vivre comme un fugitif. Et les commentaires disent que ça va durer environ 10 ans. 10 ans à faire poursuivre pour un gars qui veut tuer avec son nom. On avait réagi au bout d'un an. 10 ans. Pourquoi Saül avait une fureur, telle fureur contre David? Pourquoi qu'il voulait le tuer de même? Pour moi, trois raisons. La jalousie. La jalousie. C'est donc le geste. David était populaire. David était aimé par le peuple. Vous vous en rappelez, hein, quand sur sa victoire sur le géant Goliath, les femmes chantaient Saül a frappé ses 1000. Et David,
c'est 10 000.
Il était jaloux, c'est moi le roi. Alors là, il y a plus de
temps
de moi. Pourquoi c'est dans le livre? Non, je ne vais pas le mettre pour mourir. C'est pas une bonne réaction d'après Saül. Dieu aussi avait rejeté Saül comme roi à cause de sa désobéissance. Saül voulait régner par sa volonté. Si vous regardez l'histoire, c'est ça. Il voulait régner, mais par sa manière de régner. Il mettait Dieu de côté et agissait selon sa volonté. Et Dieu dit, je vais mettre un homme au cœur de Dieu, il va régner sur mon cœur. Et Saül le savait, ben, il faut mourir. Hein? Alors il voulait tuer David. Tu ne prendras pas ma place. Aussi, une troisième raison, il était la paranoïa. Il ne voulait pas perdre sa dynastie. Mais descendant, non, ils ne pourront pas régner. Ça va être David qui va régner pour un peu différent que la mission précédente. Alors, c'est pour moi, ces trois raisons-là qui voulaient tuer David. Ici, dans le contexte, Saül avait rentré dans une caverne, c'est écrit, pour se couvrir les pieds. Vous pensez qu'il avait fait ça? Ça veut dire ça? Se couvrir les pieds. On voit ça au verset 4. Il était rentré dans la caverne pour se couvrir les pieds. Et ça, il avait voulu aller faire soulager. C'est besoin naturel. C'est ça que ça veut dire. Il était rentré là. Un moment vulnérable pour ça. Il s'est mis très, très en danger. Parce que David et ses hommes étaient cachés dans le fond de la caverne. Tu rentres là tout seul, les autres étaient là, ils voient rentrer. On voit le passage qu'il dit, là. Ils voient rentrer. Mais longtemps qu'il court pour tuer David, il rentre là, lui. Si vous l'avez fait, c'est comme arrêtez. Si vous l'avez fait. Ces hommes lui disent, plus, ils parlent d'une manière spirituelle, ces hommes. Hein. Voici l'Éternel te dit que le livre ton ennemi entre tes mains. Wow. Vous savez, il est difficile de résister à un coup. Quand on va des réunions pour négocier des augmentations de salaire, okay? En groupe, c'est difficile. Parce que le groupe, il met de la pression, on va faire ça. Les autres, ils sont armés, ils mettent de la pression. On va y poser au 1, poser l'épée, on va finir. On va finir. Il y avait des bons arguments spirituels. Dieu te le livre. L'affaire trouve toujours logique d'éliminer la menace pour assurer ta sécurité. Puis Dieu lui avait aussi promis le trône. Fait que c'était l'occasion parfaite, l'occasion rêvée pour mettre fin à ses souffrances. Aujourd'hui, ça arrête. C'est fini. C'est fini. David s'est laissé entraîner un instant en coupant le pan du manteau de Saül. Il a pris son épée, ça fait comment, hein? Mais sa conscience sensible à Dieu l'a aussitôt repris. Son cœur était plus sensible que sa main. C'est un beau cœur. C'était un don au cœur de Dieu. C'est l'exemple d'un signe de maturité spirituelle quand l'on s'arrête dès que Dieu touche notre conscience. Une petite lumière rouge, j'allume des fois, hein? Il y a une petite voix qui vient dire en tant que voix, grand-mère, fais pas ça. Ça va-tu bien arriver?
Oui.
Pas après, après quelque chose, puis c'est dans une ligne grise, ou même noir. Il y a une petite voix qui te dit, grand-mère, tu vois l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
On avait.
Qu'est-ce qu'on avait? On pense pas, on arrête. Mais des fois, on n'arrête pas. Non, il est plus pire que ça, il est plus pire que ça, on le fait. Et là, on fait pas. Là, on arrête. Hein? Là, on arrête. Fais pas ça. Quand on atteint une voix qui nous dit, fais pas ça, allez, je suis en train de 1 Samuel 24, 7. Comment la Bible réagit? Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a placé là. Pour David, la fin ne justifie pas les moyens. Il a su dire non à la loi de la vengeance collective. Plusieurs personnes disaient, fais-les. Non. Il reste fidèle aux enseignements de la parole de Dieu. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, devenir un roi selon le cœur de Dieu, en utilisant les méthodes du diable en tuant. Tu ne peux pas faire ça. Que David dit, non, c'est pas selon la parole de Dieu. Au lieu de frapper avec son épée, David utilise la parole. Lorsque Saül sort de la caverne, il s'incline devant lui et il appelle mon Seigneur et mon roi. Waouh! Un gars qui veut tuer que des années. Il refuse de se faire justice lui-même. C'est la réaction. Face à nos offenseurs, parce qu'il y arrive des fois, la tentation est grande de sauter sur l'occasion pour se faire justice. David nous montre qu'épargner l'autre, c'est se préserver de l'amertume du péché. C'est ce qui est arrivé. Pensez-vous, il arrête de voir qu'il a reçu sa conscience tout le temps. Même que lorsque l'autorité est injuste, c'était lui le roi Saül, c'était lui le gouvernement à l'époque. Ça vous arrive-tu des fois? Ça t'arrive-tu vraiment des fois de parler contre le gouvernement? Pour s'examiner là-dessus. Ça vous arrive-tu de dire des gros mots? Ça, David, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur est mon roi. Parce qu'on dit ça. Ah, mon Seigneur, mon député, c'est lui. Mon gouvernement, c'est lui. Donc, on a des paroles plus dures des fois. Quand des fois, sur le côté américain, on raconte plus loin un peu. Qu'est-ce qui se passe? Même pour personne, quand on voit quelqu'un, il y a des lois qui arrivent pour nous autres. Hein? Mais il faut s'examiner. David sépare l'homme de la fonction. Il respecte l'institution établie par Dieu. Dieu lui dit de prier pour nous gouvernement. David peut prier pour nous, mon roi. C'est lui le gouvernement. Ça demande de la foi pour laisser son avenir entre les mains de Dieu plutôt que de régler le problème par ses propres forces ou en voulant les régler par nos paroles. Comme David, nous avons tous nos cavernes. On peut attendre deux voix. Celle qui nous pousse à réagir à l'instant. Fais-les. Sûrement Satan et ses anges, ils devaient dire Ah, oui. C'est elle qui nous invite aussi à faire confiance à Dieu. David n'a pas agi selon ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait dire. Il a choisi de faire confiance à ce que Dieu pouvait faire. Ça, c'est différent. Non? Il a laissé Dieu agir. Maintenant, on va avoir une autre réaction. Celle d'Abigaël. 1 Samuel 25, 32. David dit à Abigaël, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Et dit merci à l'IR d'avoir retenu ma main. Personne n'est à l'abri de perdre le contrôle. David se dit cette fois, comme il est arrivé. C'est une chose. Personne n'est à l'abri de perdre le contrôle. Fait que nous ici, là, on n'est pas à l'abri de perdre le contrôle. Personne. On a toutes des limites. Si le stress monte beaucoup, on peut perdre le contrôle facilement. On peut être comme ce monsieur qui est en train de changer son flux. On peut réagir. Tout le monde. On peut faire les pires bêtises si on ne met pas un rempart, si on ne laisse pas le rempart nous protéger. On a tout fait des effets qu'on n'a pas bien mis dans nos vies. On doit se confesser. Personne n'est à l'abri. Rappelons-nous ça. Celui qui se croit fort, hein, qui prend garde,
peut tomber.
Et si David allait commettre une terrible erreur, il fut insulté par le riche et insensé Nabal, le mari d'Abigaël, qui est venu le voir. Nabal, c'est un homme dur, très dur, un riche ingrat, un homme très dur. Ça, je ne peux pas aller bien loin là-dessus. Je vous invite à aller voir. Même son nom, ça me suffit à vous dire.
Oui.
Je veux dire, oui. C'est ça?
Oui.
Ouais, je ne
vais pas dire ce mot-là.
Il est fou. Ah, il est en plein ça. Ce mot-là, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. David avait demandé à Nabal un présent en récompense pour la protection des troupeaux, de ses troupeaux et de ses employés. David les avait protégés pendant une saison. On a les commentaires. Il avait protégé les employés et toutes les. Il y a beaucoup de brebis, là. Il était un homme riche. Il les a protégés pendant une saison. Ça peut être 5-6 mois, là, ça peut être. Il parle de brebis, il parle des employés. Donc, il demandait un présent. Mais en répondant, Nabal ne dit pas seulement non. Il humilie David. Il le traite comme un esclave, un bandit qui s'est enfui de la maison de son maître. Et une déclaration de guerre qui a sonné à ses oreilles. C'est une déclaration de guerre qui va commencer. David était dehors en période de tension, comme j'ai dit avec sa vie. Quand il est en période de tension, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas là, c'est pourquoi. Prendre des décisions dans ce moment-là. Il était devant attention. Alors, il se met en route avec 400 hommes pour exterminer toute la maison de Nabal. Il veut la guerre, il doit l'avoir. David est là, je vous dit. Là, il a fait des cas. Pas bon. Il n'est pas comme moi. Abigail, c'est une femme qui voit clair. Quand tout le monde perd la tête. Un modèle de maîtrise de soi, de foi active dans toute la vie. C'est vraiment un modèle d'une femme d'une grande foi. Dans toute la vie. Elle sait garder son camp, elle sait comment agir. Elle choisit de gérer la crise. Elle prépare des provisions pour l'armée de David. Puis elle va au-devant de lui. Pour désarmer sa colère, elle se présente devant lui comme étant son esclave. Et quelle humilité, hein? On a dit que Nabal, c'était un homme extrêmement riche, donc Abigail était extrêmement riche à tout, hein? Elle avait beaucoup d'argent. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, des employés, tout ça. Elle se présente comme David, comme étant sa sœur. Beaucoup d'humilité. Elle ne dit pas, en démarchant de son nom, quand t'es là, mon petit David, pas celui qui s'arrête bon. Quand t'es là, tu t'es, toi, là. au niveau de l'âme actuelle, pensez-vous que ça va être une bonne façon de parler? Elle sait qu'elle fait face à un chef de guerre qui est enragé. Elle descend de son âme, se prosterne la face contre terre. Son humilité va désarmer la ville plus efficacement que l'armée. Vous savez, c'est ça, c'est l'humilité dans les situations à conflit. C'est l'humilité qui souvent va apaiser les colères. S'humilier. Comme Dieu dit, hein, humiliez-vous et Dieu vous aidera en temps compte. Abigail, une femme qui voit loin, qui agit avec grâce, elle rappelle à David que Dieu a un plan pour sa vie. C'est ici, au lieu de dire un narcophone, elle lui rappelle que Dieu a un plan pour ta vie, David. Pense à ça. De ne pas garder son avenir par un geste impulsif qui va regretter tout le temps. Pense à ça, David. On lit le dernier verset, 1 Samuel 25, 31. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur, après avoir répandu le sang inutilement pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Donc, ça, ces paroles-là, ça a ouvert le cœur de David. Il s'est détourné du mal qui avait porté de peur. Il voulait tuer tout le monde qui avait l'autre. Il a réalisé qu'elle a agi comme Saül. Saül, il le poursuivait tout le temps partout pour tuer. Puis c'est pas normal quand il va vouloir agir comme lui. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Il va agir comme lui. Il allait se venger au lieu de laisser Dieu agir. Voyons, donc il n'est pas en train de faire l'autre. Rendre service, c'est quelqu'un qui est prêt à mal agir, ce n'est pas lui dire calme-toi. Qu'on n'a pas l'impression. Il faut quelqu'un qui a envie de s'énerver, d'aller être quand pour une heure, là. C'est quasiment là, quelques petits coups de gaz. C'est boum! Pas de bon, que c'est fermé! Mais lui rappeler que Dieu a un plan pour sa vie. Lui rappeler son identité. Pense à qui? Il était un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Je vais lui ouvrir, offrir des paroles de sagesse qui viennent de Dieu pour qu'il arrête avant de franchir la ligne rouge. Avant d'aller parler à quelqu'un qui est énervé, c'est de prier, demander, Seigneur, donne-moi des paroles de sagesse pour chacun offrir cette personne. Des fois, c'est juste, hein, mettre les yeux sur d'autres choses. Lui éviter les regrets futurs, aussi de protéger ainsi sa réputation. Dernière phrase, la direction de l'esprit qui nous aidera à contrôler nos mauvaises réactions. Donc, il faut être soumis à Dieu. Si on veut avoir des bonnes réactions, il faut être soumis à Dieu, au lieu de se soumettre à les choses qui se produisent devant le Seigneur.
Amen. Amen.